nous essayons d'analyser la manière dont l'actualité de la presse portugaise d'une archive syndicale transforme les représentations des ouvriers de la construction, notamment leur participation aux accidents de travail. À partir d'un attachement à une pluralité de perspectives, employeurs, syndicalistes, inspecteurs, on cherche à comprendre les stratégies discursives mobilisées dans ce discours. Sur la base d'un corpus élargi de 1218 nouvelles provenant de cette archive, nous avons procédé à une critique sociologique et en combinaison, en essayant de combiner avec une analyse sémantique et pragmatique des discours produits. On va voir ce qu'on va essayer de montrer. C'est ce qu'on appelle en linguistique l'hétérogénéité énonciative dans ce discours écrit de la presse portugaise. Nous avons l'approche, c'est un très vaste dépôt, une archive syndicale de nouvelles sur le secteur de la construction au Portugal. Et on a eu besoin de faire un choix parmi une série de nouvelles publiées entre 1996 et 2017. On va essayer de faire un regard croisé entre ce que la sociolinguistique interactionnelle, c'est la sociolinguistique de Gampers, et la socio-anthropologie. Les représentations, les opérations d'encadrement sur les accidents de travail, pour cette vision-là, on a une multiplicité de points de vue et de luttes autour des limites de la définition légitime d'accident et de sinistré. Donc, on va essayer de faire une analyse interprétative des stratégies de discours qui permettent aux participants de créer un rapport, ce que Erving Goffman appelle un jeu de réciproque influence, un jeu entre les interactions, un interactant écrit, entre des voix écrites, dans la situation de communication de la presse, et on va voir, on a différents types de journaux. Le discours de la presse qui constitue notre objet de recherche devient, on va essayer de montrer qu'il devient un lieu de représentation d'un point de vue tendant à devenir un terrain d'enjeu et de lutte qui a sa propre autonomie et sa propre consistance. Donc, l'objet d'étude, on a beaucoup de journaux à l'étude, en portugais 24 heures, des notices, express, les journaux sont très différents, donc notre étude, ce n'est pas une analyse des médias, ce n'est pas un rapport au changement historique du secteur, c'est un ancrage au champ de vision d'une archive syndicale. On va voir ce que c'est, on va essayer. Donc, on a beaucoup de journaux, on a aussi d'autres, ce qu'on dit, l'autre type de journaux, qui sont les journaux locaux, régionaux, qui sont différents. Et on va essayer de voir des indices sur les accidents, la façon dont les journaux, les voix qui sont aux journaux, qui parlent aux journaux, les indices de ces voix-là à propos de la vision des accidents de travail. Donc, l'étude de la construction des événements rapportés nous permet de mettre en évidence les différentes voix citées qui donnent à ces discours ce qu'on appelle une hétérogénéité énonciative. On va voir plus loin ce que c'est. Tout le discours, un peu de théorie, Kerbat-Rokenick, c'est une linguistique de l'analyse interactionnelle et qui est de l'école de Lyon, elle dit que tout le discours est produit à partir d'un lieu interactionnel. Ce sont donc les processus de construction qui s'y trouvent visés par la description des voix dans le discours. Dans ce cas, la voix du journaliste, du syndicat, des patrons, des inspecteurs du travail et les indices de la voix des ouvriers de la construction à travers le discours en direct du journaliste qui signe l'article journal. L'analyse proposée met en jeu aussi bien la structuration que la construction thématique des échanges, la dimension énonciative et les enjeux pragmatiques, relationnels et symboliques. Donc c'est un peu essayer de voir le pouvoir des mots, c'est-à-dire ce que Pierre Bourdieu disait, le pouvoir des paroles n'est autre chose que le pouvoir délégué de porte-parole. Et ces paroles, c'est-à-dire indissociablement la matière de son discours et sa manière de parler, sont tout au point un témoignage et un témoignage parmi d'autres de la garantie de délégation dont il est investi, le porte-parole. Donc, on continue. Oui.
Et, bon, en synthèse, notre recherche, c'est... consiste, pour le dire de façon télégraphique, à mettre en rapport le système d'agents intéressés, selon l'expression qu'utilise Rémy Lenoir, et cette rejeunité initiative de que parle Cavoin. Et dans d'autres paroles, à mettre en rapport les paroles, les voix et les porte-parole qui sont là. Et pour faire ça, nous voulons connaître mieux cette genre d'épistémologie ordinaire des accidents de travail qui s'est mobilisée pour interpréter et argumenter sur ce que constitue un accident de travail. Nous sommes aussi très concernés sur ces rapports que c'est déjà inspiré une œuvre de Paul Fauconnet il y a plus de 80 années sur le fait de responsabilité, les règles de responsabilité. C'est le rapport que pourrait avoir entre une certaine interprétation de la causalité et la imputation de responsabilité. Et cela, c'est surtout important dans ces cas-là, parce que dans beaucoup de cas, au Portugal, l'accident de travail, c'est un cas de loi pénale en blanche. C'est une loi pénale qui n'était pas totalement définie et qui reste à définir par des règlements qui sont constitués au niveau purement administratif. Cela, c'est important parce que cela ouvre un espace d'argumentation pour imputer la causalité et donc la responsabilité qui est impliquée dans un accident de travail. C'est seulement la détermination d'une cause, mais aussi une opération de mettre en cause, c'est de mettre un autre en cause. Ouais. Ouais, nous avons étudié des différents accidents, nous pourrons après rapporter, et ce que nous voulons, par exemple dans ces cas-là, c'est un cas d'un accident de travail, oui, si. Est-ce que quand nous écoutons, par exemple, nous avons reporté ici trois accidents différents de travail. Il y a surtout ces insistances-là de patrons que rien n'indiquait, rien ne prévoyait l'accident. L'accident, c'est imputable à des choses qui sont le sens plus restreint d'accident, sont des choses imprévisibles. Mais en même temps, il y a un discours, et c'est intéressant de comparer, c'est un discours sur le même accident pour l'inspection du travail qui mobilise surtout une espèce de technocentrisme que perspective l'accident en terminus de questions techniques. Par exemple, ils disent même qu'il n'y a pas d'accident par chance, il y a des défaillances techniques, il n'y a pas de conditions de sécurité. Et cela, c'est contrasté avec des interprétations plus communes de ces syndicats-là, précisément ces syndicats-là. Il faudrait peut-être analyser la place que ces syndicats occupent dans l'espace des mobilisations collectives au Portugal. Mais il y a la tentative d'interprétation sociale, ou en terminus de questions sociales, comme le travail précaire, la tolérance de l'État, le fait des journées de travail étant très longues. Il y a une autre tentative d'interprétation qui s'était mobilisée pour interpréter le même trois accidents situés. Oui. Et cela, c'est intéressant parce que nous avons promis que ce n'était pas une analyse longitudinale, mais nous pensons qu'il y a quelque chose ici que c'était intéressant d'analyser. Par exemple, en 1998, il y a cette insistance très grande des syndicats que c'est le travail clandestin et c'est l'abandon de la formation spécifique du secteur qui était responsable pour les accidents. Et l'inspection du travail insiste sur le manque de techniciens qualifiés ou la réluctance à implémenter des plans de sécurité. Et cela, c'est intéressant parce que entre cette date et une nouvelle date, 2006, où le secteur de construction a décroissé très fortement, et avec cela a décroissé aussi le nombre d'accidents de travail, Il y a une espèce de congratulation du syndicat et des techniciens de la réduction. Et ils n'imputent pas la réduction d'accidents à la réduction de l'activité du secteur. Ils n'imputent pas la réduction à sa propre intervention. Et le syndicat insiste. C'était le centaine d'actions pédagogiques qui a été conduites. C'était la coopération entre entités publiques et syndicats. Ou, par exemple, qu'il restait des entreprises sans conditions organisationnelles. Et l'inspection du travail insiste sur la professionnalisation d'un corps de techniciens, une amélioration des équipements de travail. C'est seulement un synode que l'interprétation qui est mobilisée, ce n'est pas exactement une interprétation sensible au contexte, c'est sensible aussi au point de vue très spécifique et aux intérêts particuliers de ces agents-là. Et pour nous, l'important, c'est que les rapports entre causalité et culpabilité, c'est très, très important ici. Ils se constituent une espèce de le renvoi de Laval, le jeu de valet-point. C'était une tentative d'imputer à des autres, de dénoncer des autres comme responsables qui accompagnent la description de causalité. Et cela correspond à interprétations qui sont beaucoup différentes. Si vous rappelez de l'interprétation qui sont mobilisées pour ces trois types d'agents sur les accidents, nous irons rencontrer des trois types complètement différents de mortes. Il y a des mortes qui sont imprévisibles. Si la causalité est imputable à un fait aléatoire, c'est une morte complètement imprévisible. Il n'y a pas de vrai coupable. Les morts ils sont imputables à des facteurs techniciens. L'interprétation qui est mobilisée pour le technicien et surtout pour l'inspection de travail, c'est une mort évitable. C'est une mort que nous pouvons éviter si les conditions techniques seront garanties. Et il y a une chose très intéressante, très mobilisée par le syndicat, c'était la tentative d'interpréter l'accident de travail, pas comme un accident, mais comme un assassinat. Ou comme un homicide volontaire. C'était cette insistance-là de que l'accident, ce n'est pas un accident, c'était quelque chose qui était imputable à quelqu'un et quelqu'un personnifié dans la figure d'un assassin. Ouais. C'est quelque chose qui émerge très fréquemment.
La CMA dit qu'on parle de malheur, du risque et de la faute dans le discours de la presse. En ce qui concerne les traits sémantiques, ce qu'on parle dans la linguistique sémantique, la notion de malheur qui est dans ce discours de la presse, on voit qu'il a des traits moins intentionnels et moins actifs. Alors que le risque, c'est plus actif et plus ou moins intentionnel. Donc le risque, c'est un peu... il y a une volonté de subir des risques. La culpabilité, il y a une cause explicite, l'accident, et l'accident qui s'est produit. Il est plus actif, il a un trait plus actif et plus intentionnel. Donc on va voir comment est-ce que ça existe dans les discours comme forme d'argumentation, des stratégies argumentatives. Donc dans les marques de discours de la presse et dans le cadre des stratégies discursives, on trouve donc la sémantique du malheur, du risque et la notion implicite de la faute attribuée non seulement au patron et responsable des chantiers, voire du syndicat, mais aussi on trouve des indices de la faute qui est attribué aux ouvriers du bâtiment, voire des patrons. En ce qui concerne ces derniers indices, les patrons associent implicitement le malheur à la faute des ouvriers. Celle-ci a des facteurs psychologiques. C'est ce qu'ils disent. Le manque d'attention, la fatigue, les effets de l'alcool et le manque de prudence. Le représentant patronal souligne le manque de prudence, absence de notion de risque et le manque d'attention comme une cause de malheur en faisant une liaison entre ces facteurs psychologiques avec la chute d'un échafaudage et la mort dans le chantier. On va voir des exemples. Rui Vienne, président de l'Association des entreprises de construction civile et des travaux publics, dans le journal Commercio do Porto, c'est un journal du Nord, il dit « On n'a pas la notion de risque Elie, au journal, je ne m'excuse pas pour le manque de sécurité sur le lieu de travail, mais ce sont souvent les travailleurs eux-mêmes qui ne respectent pas les règles, a-t-il dit, assurant que les Portugais n'ont toujours pas un sens du risque. Et en illustrant l'idée avec des souvenirs d'épisodes concrets, dit le journal, Rui Viana gagne plus de conviction dans les mots. Si vous avez déjà vu un ouvrier dénouder les fils électriques avec ses dents, rien ne peut plus vous surprendre. Souvent, dit-il, les travailleurs ont des troubles psychologiques et physiques parce qu'ils viennent de familles de parents alcooliques. A-t-il fait des hypothèses? On fait aussi un rapport implicite entre les risques, entre les accidents et les ouvriers qui n'y sont pas syndicalisés, comme Bruno a dit, et qui éprouvent les comportements de risque. Par exemple, au journal Correio da Manhã, c'est un autre journal, dans une nouvelle qui a le titre « La collision entoure trois en Espagne », on dit, alors, au sous-titre, « Une fois de plus, se fout un retour tragique pour les travailleurs portugais qui gagnent leur vie en Espagne. » Et qu'est-ce qu'on dit? Alban Ribeiro, président du syndicat des travailleurs de la construction du Nord, dit « Nous avons des actions permanentes avec les 3000 membres et je peux vous dire qu'au milieu de nos membres, il n'y a pas encore eu un décès. Si les autres en avaient aussi, peut-être que ça n'arriverait pas. » Donc, c'est cette liaison-là. Les syndicats soulignent le nombre d'excessives d'heures de travail, l'oubli des règlements, le besoin d'accomplir avec les consignes de travail de sécurité, c'est-à-dire, ils disent que la faute est attribuée aux conditions dans le chantier. Le syndicat, à notre titre, dénonce les véritables trapézistes. Donc, qu'ils font des ouvriers, il dit, ils font des ouvriers de véritables trapézistes. Donc, je dois aller plus vite, prendre en compte les conditions locales de l'activité narrative dans le discours de la presse, on voit, ça exige une double référence à l'environnement séquentiel du discours et aux enjeux interactionnels négociés au fur et à mesure de l'échange qui est décrit dans les discours apportés. Donc, on a une narrative sur l'accident du travail qui est racontée à travers le bilan des morts et la description des causes probables qui peuvent penser aux fautes et aux agents coupables. Et la narrative, c'est toujours indéterminée, avec un sujet indéterminé, le mort, la victime, sauf un cas, on a vu un cas, c'est la mort de frère, on parle de la mort de frère du dirigeant syndical portugais, Alban Ribeiro, qui va illustrer le problème des accidents dans la construction. Il avait 19 ans lorsqu'il est tombé de l'échafaudage d'un immeuble de luxe qui était en construction à Foch, à la ville de Porto. Donc c'est le seul cas. Les autres cas, on a toujours la troisième personne dans des constructions impersonnelles. On dit les victimes. On ne sait pas ni l'identité des travailleurs blessés et les marchands seuls. Donc on ne sait pas de qui on parle. On parle des morts, des victimes. Et même la façon de parler de ces événements-là, on a toujours ce qu'en linguistique on appelle les adoucisseurs rituels pour être indéterminés. Par exemple, les ouvriers ont procédé à l'époque au remplissage de la plaque qui apparemment n'aurait pas pu supporter le poids du ciment. On ne sait pas si c'était ça qui a causé l'accident. Donc, ces dispositifs discursifs, c'est pour atténuer les obligations épistémiques de celui qui dit ça. On ne sait pas. Donc, c'est une procédure discursive qui est souvent dans ces articles de journal.
Et quand nous plaçons notre œil sur les protagonistes des accidents, qui sont les travailleurs, c'était intéressant de voir, par exemple, sur un accident en particulier, que pour les syndicats, c'est le fait que les travailleurs n'ont pas de droits, il y a des dérégulations, il y a des préjugés, par exemple, qu'il suffit seulement d'être musclé pour travailler dans le bâtiment, qu'il y a des problèmes de reproduction de groupes sociaux qui sont avec la formation professionnelle qui s'est fait très lentement dans le chantier. En tant que, par exemple, l'association patronale, comme nous avons écouté, il y a des travailleurs qui n'ont pas de respect pour les règles. Ils ont aussi des volontés d'affirmer le machisme. Ils n'ont pas la notion de risque. Et parfois, ils ont même, des, comme Carla a déjà souligné, des troubles psychologiques et physiques. Pour l'inspection du travail, c'est le fait que la sécurité, c'est vu comme un coût additionnel. C'est une fois de plus une interprétation technique et aussi que ce type de laisser-aller, c'est un dommage. Oui. Et c'était intéressant de voir, par exemple, le problème de l'alcool. Nous avons déjà mentionné cela. Et il y a au Portugal, en 2002, la tentative d'introduire une nouvelle procédure de fiscalisation de l'alcool dans le lieu de travail. Et cela a été l'enjeu d'une forte polémique. Et c'était intéressant parce que les syndicats et les patronats, ils mobilisant des interprétations complètement différentes pour soutenir l'importance du contrôle de l'alcool et de l'alcool dans l'accident de travail. Pour le syndicat, c'est l'insistance que l'alcool, c'est insignifiant dans le nombre de victimes. Ils ont même démontré avec des études que les victimes mortelles ne sont pas avec de l'alcool. C'était un faux problème, c'est une insulte et c'est seulement une manière illicite de licencier. Et qu'il y a ce type de préconcept que, à travers la société, que la société croit que ces travailleurs, ils sont des gros... C'est intéressant de voir que c'est intéressant de voir que ces catégories d'interprétation, ils pourront connaître des dérivations très intéressantes. Par exemple, c'est une situation-là de syndicat, c'est très important de combattre le travail illégal et précaire, parce que ce sont ces personnes-là qui n'ont pas de cotisations sociales, c'était une citation du syndicat, que sont plus susceptibles d'avoir des accidents. Oui. Oui. Et c'est très important. Et aussi, c'est insistance-là que le problème, ce n'est pas les entreprises, mais c'est le pseudo-entreprise et les intermetteurs qui sont vraiment importants. Oui, ça prend. Et cela veut dire qu'il y a une interprétation de la salvation, une sotériologie syndicale, qui va introduire des différences très intéressantes. Un, c'est une opposition entre travailleurs de souche et travailleurs nouveaux venus, qui parfois se confondent avec une séparation entre travailleurs portugais et syndicalisés et travailleurs immigrés et précaires. Et cela, c'est intéressant parce que cela mobilise une façon, certainement avec une intention politique, d'organiser les travailleurs, mais que va créer un clivage dans l'intérieur même des travailleurs. Et après, il y a une opposition entre entrepreneurs et pseudo-patrons, avec le syndicat à soutenir son argumentation avec le fait de les entreprises qui avant des consignes de sécurité respectées ne bénéficient pas d'une situation de concurrence loyale. Et c'est intéressant, oui, de voir ces. Et pour terminer, oui.
Donc, on va finir avec une citation, une très longue citation, je ne vais pas la lire. Donc, c'est une citation de Pierre Bourdieu qui dit que le mot, le dicton, le proverbe, toutes les formes d'expression stéréotypées ou rituelles sont des programmes de perception et les différentes stratégies plus ou moins ritualisées de la lutte symbolique de tous les jours. Donc, on va terminer comme ça. Une nouvelle, c'est un peu différent des accidents de travail, c'est la construction de l'estade de Dragon à Porto, de football, qui n'a pas eu d'accident. Donc, le titre, c'est l'hommage au travail, l'autre équipe de Dragon. Et on a fait une photo, on a pris une photo pour faire une plaque avec l'autre équipe qui a construit le stade sans accident, sans victime. Donc, merci.
Au Portugal, bien qu'elle soit généralement présente dans les débats publics, l'activité économique de la construction est l'un des domaines de la réalité sociale qui manque de connaissances et de documentation scientifique systématique. Les dynamiques de son développement sont régulièrement entourées d'au moins une certaine opacité. Cette opacité n'est pas étrangère aux vicissitudes résultant d'une structure productive historiquement marquée par une grande atomisation et complexité est définie par des relations d'affaires configurées autour de pratiques complexes de sous-traitance et d'informalité que l'appareil statistique officiel a du mal à connaître en détail. Il a toutefois été possible de recueillir des informations pertinentes à ce sujet, ce qui permet de compléter les lectures et approfondir les coordonnées interprétatives. José Madruga Pinto, dans un important ensemble de travaux fait aux années 90, a réuni des contributions à l'avancement des connaissances sociologiques dans ce domaine, en identifiant les propriétés structurelles pertinentes de l'activité économique développée dans l'industrie du bâtiment au Portugal. Dans son diagnostic le plus récent, Madureira Pinto considère que parmi d'autres processus, et suite à la recomposition des modalités d'accès au logement dans le pays, il y a eu une reconfiguration de l'activité économique dans la construction dans le pays, dans un cadre généralement défini comme pro-cyclique. Outre l'articulation entre les mouvements d'ouverture et de fermeture des entreprises, sensibles à l'effet de cycle économique sous-mentionné, l'activité économique dans la construction a été marquée par un cadre d'action dans lequel la diversification des activités et l'association des entreprises prennent toute leur importance. Ce processus a également été rendu possible par le recours à la sous-traitance, qui, à son tour, est associée à la déréglementation de l'économie et du marché du travail. Dans un cadre de relations de travail marqué par la variabilité des processus, des lieux et de la sensibilité aux risques, condensés de manière contradictoire dans les activités développées sur le chantier, les réseaux informels prennent une grande importance dans la structuration de l'activité économique de la construction, étant sensibles aux nouvelles formes de l'émigration aussi. L'information recueillie dans le tableau que je présenterai tout au long de mon intervention nous permet d'enregistrer, même si ce n'est que partiellement, certaines des dimensions des processus énumérés ci-dessus. D'une manière générale, on constate que le secteur a connu une croissance significative entre le milieu des années 90 et 2008, tant en termes de nombre d'entreprises, de personnes occupées que de salariés, et que la phase post-2008 a été marquée par une perte très importante d'entreprises et d'emplois. On constate aussi que pendant sa croissance, la morphologie des entreprises, déjà très fortement à l'origine atomisée, n'a guère changé, et qu'avec 2008 et la crise qui a suivi, cette atomisation s'est intensifiée, augmentant considérablement le nombre d'entreprises de 1 à 4 personnes. D'autre part, il semble que d'autres caractéristiques sociales des entreprises et de l'emploi dans le secteur soient en train d'être remaniées en 2008. La spécialisation des entreprises dans la construction de bâtiments diminue, la présence de relations de travail à durée déterminée diminue, même si au moins un cinquième de la main-d'œuvre est définie de cette manière. L'utilisation de la main-d'œuvre étrangère diminue, l'âge moyen des salariés en activité augmente. Sans modifier de manière significative les grandes tendances de l'enregistrement régional des entreprises, généralement plus pertinentes d'abord dans le Grand Lisbonne, puis dans le Grand Porto, il est certain que la pondérance relative des entreprises de construction dans ces régions a diminué. D'autre part, si au cours de la période étudiée l'importance relative des sociétés dont le chiffre d'affaires a atteint 2000 milliers d'euros a été maintenue, avec des faibles fluctuations d'environ 96% en termes de configuration juridique des sociétés, il y a eu croissance et dans la période la plus récente, une diminution de l'importance relative des sociétés à responsabilité limitée et une diminution intense du nombre des propriétaires uniques, prenant ainsi conscience des mouvements de recomposition intense du tissu des entreprises du secteur. En ce qui concerne le capital culturel des salariés des entreprises, il s'est accru, même si le nombre de salariés ayant les niveaux d'éducation les plus élevés est loin d'être prédominant et n'a dépassé 10% que dans cette décennie. En tout état de cause, si l'augmentation des qualifications scolaires est observée sur la période considérée, en 2012, pour environ un quart des salariés, la scolarité se situe au niveau du premier cycle. Enfin, il convient de noter que le recours à la main-d'œuvre non qualifiée tend à diminuer avec un nouveau scénario de pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la construction dans le pays, qui est très présent dans le discours médiatique actuel, en particulier dans la phase la plus récente d'expansion des activités dans le secteur. Bien sûr, ce n'est pas sur la phase vraiment actuelle que nous portons notre regard maintenant. De toute façon, l'un des effets des récompositions observées dans le domaine de l'industrie du bâtiment au Portugal, et en particulier de la grave crise que le pays a connue après 2008, a été l'élaboration par les entrepreneurs et les travailleurs de stratégies visant à élargir leurs horizons et leur marché de travail. Comme nous avons déjà eu l'occasion de souligner aujourd'hui, et en particulier dans les études développées dans la paroisse de Fontercade et dans le chapitre 6 du livre que nous présentons aujourd'hui, l'expansion du secteur de la construction observée au Portugal à la fin du XXe siècle a été, dans la décennie suivante, accompagnée par une articulation des entreprises et travailleurs avec le marché espagnol du bâtiment, qui a, qui a eu comme conséquence des mouvements très importants de travailleurs entre le Portugal et l'Espagne. La crise de 2008, amplifiée par les effets de l'austérité imposée au pays dans la période qui a suivi entre 2011 et 2014, s'est traduite par des pertes importantes d'emplois déjà mentionnées. Une part importante de cette perte s'est produite dans le secteur de la construction, comme vous pouvez imaginer. Dans un secteur doté d'une grande capacité de main-d'œuvre installée, et une fois le marché espagnol et les investissements publics au Portugal paralysés, c'est une question importante, les entreprises et les travailleurs ont cherché à explorer d'autres stratégies et de nouveaux marchés. Sans ignorer l'importance des recompositions en cours parmi les grandes entreprises de construction, sur lesquelles nous avons développé des travaux spécifiques présentés ici dans le passé, il était particulièrement important pour les travaux de recherche que nous avions en main maintenant, de comprendre comment les travailleurs et les entrepreneurs provenant de ces entreprises atomisées ont vécu ces recompositions et crises. Outre l'étude de la manière dont ces processus sont déroulés dans le pays, avec le recours à un examen approfondi des statistiques officielles, l'analyse de la presse, comme on vient de voir, l'étude des priorités d'action des organisations patronales, des entrepreneurs, des syndicats, des inspecteurs du travail et la réalisation de travaux terrain dans trois contextes régionaux très différents, Grande Lisbonne, Grand Porto et la région de la vallée du Sousse, qui ont permis la réalisation de plus de 80 entretiens approfondis. Les recherches que nous avons menées ont également comporté un travail ethnographique dense et multisitué avec des entrepreneurs et des travailleurs de la construction à l'extérieur du pays, en particulier pour des raisons liées à leur importance économique et sociale, en Belgique, à Bruxelles, et en France, dans la région de Bordeaux, deux destinations importantes dans les stratégies d'élargissement du marché de travail dans la construction qui se sont établies dans ce secteur. En ce qui concerne les recherches menées à Bordeaux, et dans le cadre d'une stratégie d'observation qui comportait également des entretiens approfondis avec des inspecteurs du travail français, des représentants politiques locaux et des représentants de la diplomatie portugaise dans la région, il a été principalement possible d'interroger des entrepreneurs, directeurs de construction, chefs de chantier, chefs d'équipe et des ouvriers portugais. Au total, 17 informateurs privilégiés ont été interrogés, dont des visites au chantier, des réunions et conversations dans des cafés et restaurants des localités à forte présence portugaise dans la région. Il est important de signaler que le travail de terrain réalisé à Bordeaux s'inscrit dans un autre, développé dans la région de la vallée de Sousse, au Portugal, qui a permis d'explorer la contiguïté des expériences des entrepreneurs, des contremaîtres et des ouvriers entre ces contextes. Et ces liens, ils sont assez denses. Pour la discussion que je vais faire ci-dessous, nous avons explicitement visé la connaissance des pratiques développées par les différentes catégories d'agents pour faire face à la crise vécue dans un passé récent dans le pays et dans le secteur, et qui explique la relation entre les stratégies et modalités de reproduction sociale des agents qui ne sont généralement pas visibles, voire presque invisibles, de l'internationalisation de l'activité économique et des migrations pendulaires, avec un large impact sur les expériences des personnes qui les conduisent. Ces pratiques et leurs relations avec les cycles économiques du secteur sont récurrentes dans les nombreux registres rassemblés à cet égard sur le terrain. Voici quelques exemples et de diverses façons. Face aux difficultés rencontrées par l'entreprise qu'il avait dans le secteur de la construction au Portugal en 2008, Rui S. A pris une décision qui allait changer sa vie. En anticipant littéralement ce que serait le chemin de beaucoup de ceux qui travaillaient dans le secteur, il est parti en voiture, seul, le long de la route. L'objectif était d'internationaliser son activité, et à cette fin, Rui a quitté le Portugal à la recherche de villes où les grues étaient vues en abondance. Le signe qu'il espérait trouver pour découvrir l'activité dans la construction. Il traversa le Portugal, traversa toute l'Espagne, alors déjà en crise, en pleine crise, et s'arrêta à Bordeaux, où il avait trouvé abondamment les grues recherchées. En découvrant les mots de Silva à l'extérieur d'un chantier de construction, il s'arrêta et se rendit sur le site. Le site serait certainement entre les mains d'un Portugais et ce serait la garantie dont il aurait besoin. Il a offert ses services et ils ont été acceptés. Au cours des 4 mois suivants, il transporte les travailleurs de son entreprise portugaise vers le nouveau chantier en France. La stratégie utilisée à l'époque de la crise de 2008 continue d'être l'une de celles qu'il utilise aujourd'hui pour conclure de nouveaux contrats. Il va sur les chantiers et offre ses services. Aujourd'hui, il se consacre principalement à la construction de maisons. Il s'accumule jusqu'à 70 à 100 par an. Ces petits pas de travaux, comme il les appelle, sont plus faciles à gérer que les grands, surtout lorsqu'il s'agit de préparer le budget. Dans le passé, des erreurs dans ce domaine lui ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes et le licenciement d'un ingénieur. Dans son équipe de travail, le frère se consacre à la gestion des tâches des ouvriers. Il n'y a pas de main-d'œuvre pour toutes les spécialités. Bien qu'il soit dit que les travailleurs font un peu de toutes les activités de construction, il y a des situations particulières où ils doivent recourir à la sous-traitance. Elle est précédée d'appels d'offres auprès d'un groupe d'entreprises qu'il connaît généralement déjà et en lesquelles il fait confiance. La sous-traitance ne se limite pas à ce domaine. Cet entrepreneur recrute des intérimaires dans une entreprise française appartenant à un ami portugais. De la même nationalité que les travailleurs recrutés sur place. La qualité, entre guillemets, des travailleurs portugais est notée par les Français, pense-t-il, et c'est aussi un sujet récurrent dans les réflexions de Rui. Les principes d'une économie morale pratique construite à partir du chantier émergent d'ici avec toute son efficacité. Les Portugais sont, je cite, « les meilleurs travailleurs de France ». Ils ne rejoignent pas les environnements lourds. Ils sont protégés. En ce sens, les Portugais, entre guillemets, ont l'acceptation de ceux qui n'acceptent que les Français. Il dit, même Marine Le Pen, dit, lui, c'est lui qui le dit, ne pose aucun obstacle à cette population. Bon. José Carlos est un chef de chantier. En portugais, ça, c'est un mot dans le langage de la construction important, une carga de gelade. Il est né en 1976 à Bayan, dans l'intérieur du district de Porto, dans la région des vallées de Tâmega et Sousa, dans cette même région dont on a parlé beaucoup déjà aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Il a grandi avec ses grands-parents, deux fermiers. À l'âge de 12 ans, il a quitté les corps pour aller travailler. Il a commencé comme aide-maçon et comme peintre, sans déclarer l'activité aux autorités. Je vais pas m'allonger. Depuis 2016, il occupe le même poste en France que dans le pays voisin. Chef de chantier, les villes de Tours, Montpellier, Bordeaux ou Bayonne font désormais partie de son itinéraire. cette société qui sous-traite, mais qui est aussi sous-traitée, compte 153 hommes sous sa responsabilité. Il est logé dans l'une des 5 maisons qui sont louées pour accueillir les employés de l'entreprise. Les conditions d'installation sont bonnes. Les visites au Portugal se font chaque semaine par voie terrestre dans un minibus d'entreprise. Mais l'accomplissement répété dans le temps de ces voyages le rend fatigué et prêt à retourner au Portugal. Une solution serait de s'installer à l'étranger avec la famille, mais la barrière, la langue et l'absence de domicile fixe rendent cette option impossible. La solution serait de retourner dans le pays d'origine. Il dit, pour vivre à nouveau avec les gens, pour connaître l'environnement de notre terre, nous sommes de notre terre. Bien qu'il est maître en France, il dit qu'il doit faire un choix. Soit on apprécie la famille, je cite, soit on apprécie le reste de notre vie, soit on reste ici pour gagner notre vie. Dès que l'enfant, son fils, atteint l'âge de la majorité et peut se lancer dans le monde du travail, il retourne dans son pays d'origine pour profiter un peu de la vie, car jusqu'à présent, j'ai collecté de l'argent pour eux, les enfants. Abel a 33 ans, il est originaire de Lausanne, dans la région aussi dont on parle. Il est venu à Bordeaux par l'intermédiaire d'un contremaître que lui a parlé de l'existence d'une entreprise avec des Portugais. Mais il a dit une chose et c'était une autre. Il a été trompé par rapport aux fonctions qu'il allait exercer. Mais après que les patrons, les actuels, ont eu connaissance de sa qualification pour conduire des machines, information qu'il n'avait jamais été en mesure de donner à ce contremaître, il a commencé à exercer ses fonctions. Il a suivi en cours de manœuvre de machine et il a été certifié, encartado, comme on dit en portugais, dans le portugais populaire. Interrogé sur les fonctions qu'il exerce actuellement, il répond « Je construis, je fais tout, c'est pareil ». Il est arrivé à Bordeaux il y a 7 ans, interrompu pendant un an et demi pour retourner au Portugal, puis a fini pour revenir à Bordeaux pour la même entreprise, l'actuelle. Il m'aime bien, ce sont des parents, dit-il de bonne humeur, et quant à la langue française, on se gratte un peu. Il s'empresse de dire, lorsqu'on l'interroge sur la possibilité d'émigrer dans un autre pays, « Si je pars dans un autre pays sans connaître les gens, je n'irai plus. » Il ne veut pas vivre en France non plus. Le Portugal est tout pour moi. Bordeaux, pour moi, c'est juste du travail. C'est tout. Bon. Je pourrais multiplier les exemples. Bon. La recherche de travail, d'emploi et l'expérience du chantier en France, présentée à travers les 3 cas identifiés, comme je vous dis, je pourrais maintenant multiplier les exemples. Même dans l'avion, j'ai raconté cette histoire. J'ai eu la preuve vivante à mon côté pendant 2 heures de mon argument. C'était vraiment une expérience sociologique impressionnante, cette conversation avec un gruiste qui travaille à la banlieue de Paris depuis 8 ans. Bon, vraiment une très bonne histoire. Bon, mais... la recherche de travail, d'emploi et l'expérience du chantier en France, présentée à travers les 3 cas identifiés, sont paradoxalement structurées autour de ce que l'on pourrait qualifier d'une tentative de construire, une tentative éminemment sociale, pour récupérer l'argument de Bourdieu, d'un marché de travail basé sur des mécanismes de cooptation, pour utiliser aussi le raisonnement sociologique de Nicolas Jonas. Malgré la force des prix et des budgets pour déterminer les possibilités d'action dans le chantier, tout en dit que dans le monde dynamique et différencié de la sous-traitance, les agents représentés ici cherchent à jeter les bases d'un capital social, à la limite d'un capital d'autochtonie, même lorsque cela est fait grâce à une mobilité physique intense à grande distance. Liés aux résultats économiques, temporels et techniques, ces agents, pour survivre sur le marché, cherchent à assurer. Les activités sur les sites de construction semblent être fortement liées aux pratiques de réciprocité et à l'établissement d'une confiance mutuelle configurée autour des univers sociaux et spatiaux d'appartenance commune où la forte célébrité sociale organisée autour de la de l'évaluation permanente de compétences techniques et physiques et pratiques sur le chantier joue un rôle central. Nonobstant les erreurs auxquelles peuvent être soumises les modalités de structuration de la relation de travail itinérante dans la construction, il semble que nombre des entrepreneurs contremaîtres, et je souligne contremaîtres, et travailleurs de la construction portugais interrogés dans le cadre de cette recherche ont fait face à la crise post-2008 avec une intensification de la pratique habituelle de l'itinérance qui les caractérisait déjà. Tout en dit également qu'il est gru que l'on peut voir dans le paysage bordelais sont entourés d'un réseau complexe d'agents efficients, pour reprendre aussi le mot de Bourdieu, opérant depuis les chantiers, que beaucoup de nos interviewés, en particulier les contremaîtres et les chefs de chantier, ont contribué à construire et dont ils ont appris à maîtriser l'univers des compétences et dans lesquels ils ont investi leur travail, leur morale, et je souligne cette question-là, et bien sûr leur corps. Merci. Thank you.